merci d'être là. Rencontre aujourd'hui, dernière rencontre du TP numérique, qui est une série de rencontres qui se tiennent généralement au pavillon de Colin, mais que pour l'occasion, puisque c'est une formule conférence et non pas une formule discussion plus informelle, on est ici à la bibliothèque qui nous accueille. Depuis cette année, elle, par quel vivant, co-organise les séances, elle fait la circulation pendant que je parle. Et on est donc heureux de recevoir aujourd'hui Olivier Charbonneau, qui est bibliothécaire à l'Université Concordia. C'est un de ses trois chapeaux. Le deuxième étant rédacteur du site culturelibre.ca, qu'il anime depuis de nombreuses années, je ne peux pas dire combien.
10 ans!
10 ans! Donc, on aurait dû sortir un gâteau pour souligner cette chose. Voici le site en question. Mais également, candidat au doctorat en droit au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Et donc, c'est peut-être davantage ce chapeau qu'il va revêtir aujourd'hui pour discuter de la notion du droit d'auteur et des incidences, transformations liées au contexte numérique. Je vais lui laisser la parole, si ça convient.
Bien sûr.
Et n'hésitez pas, je pense, à l'interrompre, à lui poser des questions en cours de route, qu'on n'est pas très nombreux, on peut se permettre cette liberté.
Absolument, là, on a une heure ensemble. J'ai présenté 174 acétates. Fait qu'une fois que j'ai fini mes acétates, on va passer. c'est sûr que j'ai une présentation formelle parce que c'est la nature des choses que vous avez dans vos mains. C'est une version extrêmement allégée des faits saillants. Je dis que c'est ma présentation sans les blagues. Donc, vous allez au moins devoir regarder l'écran un petit peu pour rire avec moi. Puis, on est juste une vingtaine de personnes. Donc, sérieusement, j'ai un plan, mais on peut sauter. Généralement, là, ma règle, c'est quand on est plus que 20. Là, je suis la présentation. En bas de ça, on y va à... Comment dire, free for all un peu, là. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter, là, surtout quand je parle vite. Moi, je fais un doctorat là-dedans, je suis collé à des trucs, là, hyper pointus. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Posez-moi des questions. Si ça semble une question pertinente pour vous, posez-la. Il y a au moins 3 personnes dans la salle qui vont vous remercier sans vous le dire. Ça, c'est vraiment sympa. Alors, culturelibre.ca, c'est mon blog que j'ai lancé justement pour réfléchir à ces questions-là, garder trace aussi des nouvelles et des bribes qui m'intéressent. Mais j'utilise aussi comme un carnet de recherche pour mon doctorat. Puis ça, c'est un autre thème que j'aime beaucoup, la science ouverte, la science libre et différentes façons d'utiliser les médias sociaux pour faire de la science. On s'en reparlera dans un autre contexte, mais c'est imbriqué. J'ai aussi un canal YouTube avec une 60aine de vidéos. Malheureusement, c'est l'Université Concordia qui paye mon hypothèque, donc je parle en anglais en majorité dans... mon canal YouTube, mais j'ai promis 2 vidéos à une amie, une sur WordPress et une autre sur le droit d'auteur. Et puis là, je me filme et je vais mettre ça sur mon canal YouTube, donc c'est sûr que je vais être obligé de le faire, parce que là, j'ai une trace officielle. Donc, regardez ça pour vous être... Mais j'ai beaucoup de vidéos sur la recherche d'informations sur le web et sur les bases de données en bibliothèque. Puis c'est pour moi une façon d'être efficace dans mon travail de bibliothécaire à l'université. Je mets mes vidéos en ligne. Et ça m'évite d'avoir à répéter tout le temps la même façon de comment trouver des informations dans PMB. Si vous êtes en business, vous savez c'est quoi. Il y a aussi le dépôt institutionnel de l'Université Concordia où je verse tous mes écrits, Spectrum. J'ai ma page dans Spectrum. Et je crois que c'est à jour, mais il va falloir que je vérifie parce que j'ai été un petit peu occupé ces derniers mois. Et ça, c'est pour tantôt. OK, fait qu'on va commencer. Alors, la question qu'on m'a demandé de répondre, c'est quel droit d'auteur pour le 21e siècle numérique? Mais je vais vous décevoir tout de suite. La réponse, c'est, ça va toutefois bien. Il n'y a pas grand-chose à changer. C'est pas le droit d'auteur le problème. C'est les licences. C'est les contrats. C'est les régimes. Hein? Puis, en fait, j'ai demandé à René, j'ai dit, René, tu veux pas que je parle de copyback? Pourquoi tu me demandes, tu sais, pourquoi je dis, et copyback alors? Tu sais, genre, non, on va garder dans le... Mais ça, c'est je suis tremblé dans le devoir, hein, on le montre ses dents. C'est vraiment la photo qu'il y avait dans le devoir, c'est comme, faut que je... Puis, bien sûr, j'ai mis ma source, c'est une très belle photo, hein, fait que je l'ai en utilisation équitable pour des fins de critique, compte rendu et d'éducation, fait que voilà, j'ai pu utiliser ça. Oui, effectivement, et je vais être bien franc avec vous, c'est le sujet de ma thèse de doctorat. Hein, puis ça me fait plaisir d'être ici, de parler de ça avec vous, parce que ma femme est plus capable de m'entendre parler du droit d'auteur. Donc, des gens qui prennent un morceau de leur après-midi ensoleillé pour venir parler avec moi du droit d'auteur, ça fait plaisir. Mais j'étudie la différence entre les licences signées en bibliothèque et la licence copyright. qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte institutionnel, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte où le droit d'auteur a des exceptions et des choses comme ça. Donc, c'est sûr que le débat qui se passe à l'Université Laval, c'est extrêmement pertinent et intéressant pour moi. Puis d'ailleurs, je remercie l'Université Laval de me donner au moins un autre chapitre à ma thèse. C'est apprécié. Donc, on va parler de ça. Puis si vous n'êtes pas satisfait de ma réponse, moi, en passant, j'appuie l'Université Laval. Je trouve que vous faites un excellent travail. Je suis déçu des autres universités de pas avoir suivi le pas de l'Université Laval, puis de vraiment lancer le débat de front. Et je l'ai pas encore écrit, parce que j'ai promis à ma femme de finir ma thèse avant de commencer à écrire des trucs dans les médias, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que je vais aller sur la place publique pour défendre l'Université Laval, parce que je trouve que c'est une excellente initiative. Puis ça, je le dis sur Internet. Et voilà! Je peux juste imaginer c'est quoi être bibliothécaire de nos jours à l'Université Laval. Je sais pas si le secrétariat juridique regarde ce que vous faites un petit peu plus. Je sais pas si... Non, je sais pas. Mais je pense à vous, puis je me dis, mon Dieu! Est-ce qu'ils sont sous les feux de... Enfin, je pense à vous, c'est un petit clin d'œil à la pression que vous avez peut-être ressentie. Alors, on va commencer... pour résumer, là, une façon de voir le problème. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de droits d'auteur aujourd'hui? Je trouve que c'est pertinent de prendre peut-être 5 minutes juste pour dire, écoutez, là, c'est facile, la réponse, c'est le numérique. Hein. C'est pas pour chercher midi à 14h. Mais on va regarder ça. Après ça, je vais être obligé de vous présenter, là, j'ai pas le choix, qu'est-ce que le droit d'auteur? Comment ça marche? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui encore ont, ils mélangent propriété intellectuelle, droit d'auteur. On va parler de la différence entre les deux. On va parler de différents concepts qui sont importants dans le droit d'auteur. Surtout la différence entre une exception puis un contrat. C'est vraiment là où le jeu se joue dans le droit d'auteur. Fait qu'on va... J'espère que vous allez me poser des questions parce que moi, j'ai mes acétates que je présente, mais j'espère que vous allez me poser des cas. Puis c'est souvent là que les gens me disent « Oui, mais moi, j'ai un cours puis je veux présenter un film. Est-ce que je... » Oui, s'il vous plaît, posez-moi ces questions. Ça va me faire plaisir. Et après ça, ben... On va parler de quel droit d'auteur pour le numérique. Je vais essayer de répondre à la question, mais vous le savez déjà ma réponse. Il n'y a rien à changer. C'est juste les contrats qu'il faut changer. C'est pas le droit. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'adore cette citation. J'adore. 1945. Chaffee, un chercheur en droit d'auteur, a dit « Le droit d'auteur, c'est la cendrillon de la loi. C'est belle-sœur riche, les franchises et les brevets, l'ont longtemps tassé dans le coin de la cheminée. Soudainement, la fée marraine, l'invention, lui a donné des pouvoirs avec les moyens de reproduction mécanique et électrique. Et puis maintenant, elle se promène dans un glorieux bal. Parce que là, avant, c'était... Le droit d'auteur, jusqu'à peut-être 20 ans, c'était un truc technique. C'était pour des représentants de commerce internationaux. C'était pour des avocats qui dealaient avec des stars. C'était... très aride, fonctionnel, il n'y avait pas grand-chose à faire là-dedans. Mais de plus en plus, la société civile s'imbrique là-dedans. Puis selon moi, c'est fou de voir que même en 1945, on voyait cette problématique-là, cette dynamique-là, que le droit d'auteur posait des problèmes à la société. Alors, le changement de paradigme, c'est vraiment l'émergence du numérique. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, quand j'allais répondre à la question « Quel droit d'auteur pour le numérique? » Je vais vous expliquer pourquoi, du point de vue économique et social, avec différentes théories, pourquoi ça pose un problème extrêmement difficile à résoudre. Parce que ça change les paramètres économiques quand on analyse les œuvres protégées par droit d'auteur numérique. Il faut tout le temps rajouter le numérique. Parce que là, on passe du papier au numérique. Là, on est dans le... Si j'avais à identifier une date précise d'un bon moment pour... que les historiens se rappellent de ce moment-là, la date où l'Université Laval a décidé de pas signer avec Copydex en ligne popée. Ou formellement, au Québec, il y a eu un moment décisif pour dire « Hey, on va se questionner sur l'émergence du numérique, ça en serait une popée, celle-là. » Mais réellement, fonctionnellement, dans la loi, dans l'article 3 de la loi, c'est ce qu'on appelle les droits réservés. Parce que le droit d'auteur interdit. Okay? Si vous vous souvenez de ça, vous avez tout compris. Le droit d'auteur interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que c'est la loi. Il n'y a pas de rhétorique à avoir là-dessus. La loi interdit. Point. À l'article 3, la loi interdit certains usages précis. On va en parler dans une seconde. Mais ceux qui nous concernent, surtout dans le milieu universitaire, surtout dans le milieu des bibliothèques, on parle de publication et de reproduction. Ça, c'est ce qui était inclus dans la loi avant. C'est les droits classiques. Puis avec la réforme de 2012, tout le monde parle des exceptions qui ont été conférées aux utilisateurs, aux bibliothèques, etc. Mais c'est drôle, il n'y a personne qui mentionne le nouveau droit que le législateur a reconnu au titulaire. Hein? C'est comme dire, hey, mon voisin, oui, mais toi, t'as reçu quelque chose. Ce qu'ils ont reçu, c'est le droit de mise à disposition qu'ils ont incorporé à la communication par télécommunication. Donc, formellement, dans le droit canadien, il n'y avait rien qui empêchait la mise à disposition sur Internet. Vous saviez pas, hein, mais échanger des fichiers musicaux, c'était légal. Jusqu'en 2012. Parce que on peut prendre de la musique sur Internet, c'est encore permis, mais là, on peut plus en mettre sur Internet. C'était ça la différence, c'est mettre à disposition versus charger, télécharger. Mais vous voyez le point. Oui?
Ce qui se passe en Australie, qui ont downloadé le film... Ça aurait été correct au Canada, mais je ne pas...
Les films, c'est différent. Puis, parce que la musique a un régime de copie privée à l'article 80, puis ça s'arrête pas... J'ai bien dit musique, hein? donc, fonctionnellement, quand on pense à ça, OK, le processus de publication, ça implique un éditeur, ça implique un contrat, ça implique une reproduction d'un livre, d'une distribution en librairie. Il y a tout un mécanisme, ça implique le dépôt légal, ça implique des ISBN... Ce mot-là, publication, il y a beaucoup d'usages sociaux en arrière-plan. Okay? Mais là, la mise à disposition, c'est un autre contexte. Quand la bibliothèque numérise un texte puis la met dans la réserve électronique, c'est pas de la publication. C'est pas de la reproduction. C'est une seule reproduction. Peut-être que c'est une seule reproduction, mais c'est certainement de la mise à disposition. Puis ça, c'est un changement de paradigme qui a émergé, qu'on savait qu'il existait avant dans d'autres juridictions, mais que formellement a pris racine au Canada en 2012 avec la modification de la loi sur le droit d'auteur. Donc, si on veut fonctionnellement, formellement savoir c'est quoi qui a changé dans la loi qui nous importe, c'est l'introduction de la mise à disposition par Internet, ce qui implique que maintenant Internet existe au Canada depuis novembre 2012. C'est quand même bien qu'on soit rendu là. Ça va? C'est ça que vous attendiez. Hein. J'espère que je suis pas dans les patates, là. Au moins, je parle de droit d'auteur, je suis dans le bon... ce qui est reconnu, par contre, de plus en plus, c'est l'émergence des exceptions. Et surtout, c'est pas juste le législateur qui en donne des nouvelles, c'est la Cour suprême qui les articule, qui les confirme, qui les solidifie dans le droit canadien. Je sais pas si vous le saviez, mais le Canada, c'est le seul pays au monde en ce moment où existe une exception YouTube, c'est le User Generated Content, le contenu généré par les usagers. Il est maintenant licite, légal, au Canada, pour quiconque, de prendre du contenu protégé par droit d'auteur et le remixer. Et non seulement le remixer, mais le mettre n'importe où, sur YouTube, sur un blog, sans demander la permission, tant que la source est reconnue. Tant que la source du document, c'est un document légal. Donc, tu sais, là, qu'on prend pas une copie sur un torrent. Tant que, mettons, j'ai le DVD chez moi, je prends QuickTime sur mon Mac, puis là, je prends la scène où est-ce que la Reine des Neiges, elle chante, là, puis que mes filles, ils arrêtent pas de chanter. Je fais un voice-over avec moi qui chiale en québécois. Je mets ça sur YouTube, c'est correct. C'est légal, parce qu'on a l'exception 29.21 qui a été introduite dans la réforme de 2012. Okay? Ça, je peine à comprendre qu'on l'a pas encore employé plus dans le milieu social ou dans les écoles. Parce que maintenant, le remix est permis. Moi, je le vois du point de vue de l'université. Quand un étudiant, une étudiante vient me voir avec sa thèse puis me pose des questions parce qu'ils veulent imbriquer des photos dans leur thèse qui sont protégées par droit d'auteur, ben je lis l'article 29.21 sur l'exception pour le contenu généré par les usagers puis je me dis, ben là, si je peux prendre, tu sais, les Schtroumpfs avec Taylor Swift, je fais un remix, je mets ça sur YouTube, pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas prendre, tu sais, 12 photos puis les mettre dans ta thèse sur le dépôt institutionnel, dans le dépôt institutionnel de l'université? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'appelle l'avocat, là? C'est, regarde, 29-21, tu sais, tu fais juste changer YouTube par université puis vidéo loufoque par thèse. Mais bon, j'appelle quand même l'avocat. je suis bon joueur, je suis collégial. Donc ça, c'est une des exceptions qui a été rajoutée. Les autres exceptions qui ont été rajoutées, c'est qu'ils ont rajouté nommément, dans l'utilisation équitable, la parodie, la satire et l'éducation. C'est les trois choses qu'ils ont rajoutées. C'est à l'article 29 de la loi sur le droit d'auteur, qui est disponible en ligne gratuitement, soit sur le site du ministère de la Justice, parce que le droit d'auteur, c'est fédéral, soit sur le site Canly, qui offre accès à notre documentation juridique première gratuitement, qui est un excellent site. Et voilà, on va parler des exceptions dans une seconde, mais c'est ça ce qui a changé fondamentalement, l'introduction d'un nouveau droit, mais aussi un nouveau droit de propriété, qui est le droit de mise à disposition. OK? Ça, c'est un gros changement de paradigme, parce que ça reconnaît l'émergence du numérique, mais on ne sait pas comment il s'articule encore, exactement. C'est là que je fais ma thèse, moi. Je vais essayer de comprendre le droit de mise à disposition, dans un contexte d'édition où... Non, c'est pas ça. Puis après ça, il y a eu les exceptions qui... Fuck la patente. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du droit d'auteur? Là, je m'étais dit, je vais leur poser des questions, bref, pour... Là, je me suis dit, je voulais pas faire ça. Là, je dis, on va utiliser la pédagogie inversée, on va faire des groupes. Non, non, non. Ça vous tente pas, hein? Non.
Je peux le faire,
mais je le ferai pas. Tu vois comme je suis gentil? C'est comme le bourreau tortionnaire. On va commencer avec ça. C'est clair? Tout le monde est d'accord? Levez votre main droite, sinon je continue pas. OK? Ça, c'est juste pour... Oui, OK. Mais c'est aussi pour vous expliquer que ce qui compte dans le droit d'auteur, là, c'est pas la loi, c'est le contrat. C'est ça qui compte. Plus souvent, quand il y a de la chicane, c'est pas la loi qui cloche. C'est rarement la loi qui cloche. C'est la façon que les gens utilisent la loi dans les contrats, dans les licences, dans les relations. Quand on dit Sony cross, ben, pas Sony, une grosse compagnie de musique cross les artistes, faut que je fasse attention. j'adore Sony, quelle belle compagnie, probablement très profitable pour leurs actionnaires. Donc, c'est pas parce que la loi est mal faite, c'est parce que les contrats, il y a une asymétrie de pouvoir dans la façon que les contrats sont négociés. Parce qu'il y a du capital, il n'y a pas de capital, en tout cas. Oui, les gens. Okay. Mais c'est aussi pour faire rire les gens un peu. Alors, je ne suis pas avocat. Vous n'avez pas le droit de dire, Olivier a dit que c'était correct, il m'a dit que c'était correct. Non. Olivier présente des théories et non des faits. Merci les créationnistes de m'avoir donné cette idée-là. Là. J'ai failli mettre ici à la Jojo Savard, c'est pour des fins de divertissement uniquement. Là. Et aussi, très important, s'il y a des avocats ou des juristes dans la salle, il y a une distinction entre le droit tel qu'établi par le législateur, qu'on appelle le droit positif. Moi, je suis un pluraliste. C'est-à-dire que j'accepte que quand il y a des interactions dans des systèmes sociaux, il peut y avoir des normes qui émergent à l'intérieur de ces systèmes sociaux-là qui représentent des choses qui sont aussi importantes que des lois. Moi, je suis dans cette approche épistémique-là. Donc, c'est important de le mentionner parce que souvent, les bibliothécaires, aussi, on mélange les contrats et la loi. Hein? Parce qu'il y a la loi qui dit certaines choses, puis il y a les contrats de licence qu'on négocie. OK? Puis c'est deux champs de connaissances complètement différents dans la loi. Fait que quand on approche les avocats, on leur dit « Qu'est-ce que tu connais du droit d'auteur? »« Ah, oh, rien, posons pas de questions. »« Tu vois, mais là, c'est des licences. »« Ah, ben là, les licences, ça va être quoi, je l'espère. » C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a une distinction entre les deux. Moi, c'est juste ici pour vous dire aussi que je fais un doctorat, c'est cool. C'est ça. Alors, tout le monde sait ça, j'espère, mais on va le dire pareil. La propriété intellectuelle, c'est le terme générique. Ça, c'est des termes spécifiques. Les bibliothécaires, TS, TG, dans les thésaurus. Là. Ça, c'est un fruit. Ça, c'est une pomme, une orange, une banane. Okay. C'est important de le dire parce que les gens, ils confondent souvent la propriété intellectuelle. En tant que tel, il n'y a pas de loi de la propriété intellectuelle. C'est des types de lois spécifiques. C'est des régimes juridiques. Le point de ralliement entre chacun de ces régimes juridiques-là, ça, ça intéresse les bibliothécaires et les gens qui sont intéressés à la société du savoir en général aussi. Parce que vous êtes des bibliothécaires, hein, ceux qui sont intéressés à la société du savoir, les histoires en communication, en éthique des sciences, en tous ces autres sujets-là, vous sans le savoir. C'est que tous ces régimes-là interdisent des choses qu'on peut faire avec de l'information. Ils limitent l'utilisation d'informations dans différents contextes. C'est ça le fil rouge de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ce sont des régimes où la loi interdit certains usages reliés à l'information. Je vais vous donner certains exemples très simples. Les brevets. L'information concernée, c'est des méthodes industrielles. Ça, c'est l'information dont l'usage est interdit dans certains contextes. Pour les marques de commerce, l'usage qui est interdit, c'est l'utilisation d'expressions dans un contexte commercial. Si j'ai un restaurant, je ne peux pas avoir un Big Mac. La seule façon d'avoir un morceau de nourriture qui s'appelle Big Mac, peu importe le morceau de nourriture, c'est d'avoir une licence de McDonald's qui est propriétaire de cette marque de commerce-là. Par contre, si j'écris un roman et que mon personnage mange un Big Mac, ça c'est correct, parce que ce n'est pas une expression commerciale, c'est une expression littéraire, c'est reconnu comme étant un usage qui est non limité dans un contexte de marque de commerce. Donc, information, interdiction d'utilisation. Design industriel, la même chose. Essayez de faire un téléphone dans le même bois. Pareil. Oubliez ça. Donc, l'idée, c'est que la propriété intellectuelle sont des régimes d'interdiction qui s'appliquent à de l'information. Mais nous, celui qui nous concerne, c'est le droit d'auteur. Et le droit d'auteur interdit l'utilisation de certains usages reliés à de l'information écrite, des films, etc. Ça va? C'est bon. Droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur. Le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est notre culture. C'est notre savoir, c'est notre information, c'est les journaux, les livres, les caisses de théâtre, les bâtiments, les sculptures, les photos, la musique, les caisses de théâtre. Puis, parcourir les rayons ici, là, c'est tout ça qui est dans les bibliothèques. Moi, ma théorie des bibliothèques, c'est ça que j'essaie d'explorer aussi, c'est que, peu importe ce qu'on faisait avant dans l'histoire, là, on a fait plusieurs choses à travers l'histoire pour différents régents, prêtres, etc., là. Ce qu'on fait maintenant, là, on règle des problèmes dans les marchés d'information numérique. C'est ça qu'on fait, selon moi. C'est ça ma théorie. Mais c'est pour ça que c'est pertinent de parler du droit d'auteur dans les universités, parce que toutes les choses qu'on utilise dans l'université, soit qu'on les produit ou soit qu'on les consomme dans le cours de l'apprentissage. Donc, on n'a pas le choix de parler de droit d'auteur, surtout qu'on a toutes ces nouvelles façons de faire, ces nouvelles technologies qui émergent dans ce contexte-là. Ça, je l'ai mentionné plus tôt. Le droit d'auteur, c'est le contrôle. Parce que je la répète souvent, puis je devrais la mettre sur YouTube. Tiens, Sylvia, c'est celle-là que je vais faire pour toi, cette partie-là. Comme ça, je vais juste pouvoir dire aux gens, allez voir ma présentation, puis après, ça va voir vos pensées. C'est le contrôle. Le droit d'auteur est interdit. Le droit d'auteur est interdit. Le droit d'auteur, c'est le contrôle. Pourquoi? Pourquoi ça existe? Pour deux raisons. Pour faire de l'argent. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Et pour protéger le créateur, donc le droit moral. Ça, c'est vrai partout, sauf aux États-Unis. Je tomberai pas là-dedans, parce que ça, c'en est toute une autre histoire. Et ici, vous l'avez dans votre petit cahier, là, vous étiez supposé de plier en deux, puis de suivre religieusement, mais pas. C'est tout ce dont, tout ce que je peux dire sur le droit d'auteur en une assez étape. Je passerai pas au travers parce que c'est trop long. Mais juste pour dire que le droit exclusif d'exploitation, c'est là où ça se tient. Il y a certains usages qui sont réservés. À l'intérieur du droit exclusif d'exploitation, il y en a qui ne sont pas inclus. Okay. J'ai le droit de parler d'une œuvre publiée. Okay. Ça, c'est un droit qui n'est pas réservé. Okay. Le droit d'auteur s'applique à une œuvre originale. C'est ça. L'application du droit d'auteur, c'est automatique. Si vous prenez des notes sur la feuille que je vous ai distribuée, vos notes vous appartiennent. La représentation visuelle, les mots que vous avez utilisés, ça, c'est vos mots à vous. Oui, vous vous êtes inspiré de moi, ce que je dis, mais en réalité, c'est votre appropriation de mon contenu. Okay? Dès que quelque chose est fixé, un droit d'auteur émerge. Et donc, je capte ma présentation, le fichier qui va en résulter est protégé par droit d'auteur et m'appartient, parce que c'est ma présentation. Okay? Et ça prend une originalité. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Claude Robinson. Sinard. C'était ça le clou du débat. C'est qu'ils ont tous les deux, Sinard et Robinson, ont utilisé une œuvre dans le domaine public. Et Robinson Crusoe, William Dafoe. Et ce que Sinard disait, c'est que ma version, la version de Sinard, était originale par rapport à la version que Robinson avait fait. Okay. Puis là, la Cour devait déterminer c'est quoi le critère d'originalité pour déterminer quand quelqu'un regarde les deux œuvres côte à côte, là, c'est quoi le critère qui différencie ces deux œuvres-là qui sont basées d'une œuvre du domaine public. C'était ça la particularité. Puis là, Sinard disait que ça prenait un expert en sémiologie, un expert en quelque chose. Puis Robinson disait, ah non, c'est n'importe qui voit ça, il sait. La Cour suprême a statué que c'est le critère pour déterminer l'originalité. C'est monsieur et madame tout le monde qui l'ont. Donc, quand tu le vois, tu vas le savoir. Plutôt qu'un expert qui va faire une analyse, parce que là, Sinard avait embauché des sémiologues, qui avait trouvé des distinctions fondamentales entre les deux œuvres. c'était de savoir si c'était quoi le critère pour l'émergence d'un droit d'auteur distinct dans les deux œuvres. S'il n'y a pas de droit d'auteur distinct, il y a plagiat. S'il y a un droit d'auteur distinct, ben là, il y a deux œuvres indépendantes qui peuvent avoir une vie commerciale et suivante. Donc, c'était ça. Ça, c'était intéressant. Du point de vue du droit, c'était pas pour moi. Du point de vue du droit, c'est intéressant de regarder ces définitions-là. Un truc intéressant aussi, c'est que puis ça revient à la fonction de l'État d'en générer un commun ou une place commune de savoir, c'est qu'habituellement, c'est ton employeur qui possède le droit d'auteur. Okay? Comme nous, à l'Université Concordia, les bibliothécaires, on est dans le syndicat des profs et dans la convention collective, qui est mon contrat d'embauche, c'est stipulé que l'université nous redonne le droit d'auteur, mais se garde un droit d'exploitation de 10 ans. Okay? Et dans l'articulation d'un accès libre au matériel éducatif, par exemple, le ministère de l'Éducation et toutes les commissions scolaires possèdent les droits d'auteur des enseignants. J'ai pas lu les conventions collectives des profs, mais on me dit, j'ai assez de profs dans mon univers, soit qu'ils veulent pas en entendre parler du droit d'auteur, ou soit qu'ils ont l'impression que ça c'est pas mentionné dans le contrat des conventions collectives. Ça veut dire que toutes les commissions scolaires et tous les hôpitaux du Québec possèdent les droits d'auteur des enseignants. Donc, si on voulait prendre tout le matériel pédagogique du Québec puis le rendre accessible par Internet gratuitement, ben, je demande aux commissions scolaires de faire des politiques d'accès libre sur leur propriété intellectuelle. C'est simple, non? Mais le point ici, c'est que le premier titulaire du droit d'auteur, c'est le créateur ou son employeur. Ça devient intéressant du point de vue de déterminer ce qui est titulaire. Ça prend un transfert par écrit. Je mentionne transfert par écrit parce que il y a deux types d'utilisation d'une œuvre protégée par droit d'auteur. Soit qu'on la loue, c'est ça qui arrive en bibliothèque actuellement, on loue les documents dans les collections numériques. C'est des licences non exclusives, limitées dans le temps des fois. Quand on a des accès pérennes, ça va mieux, là, des accès perpétuels. Là. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire par ça, c'est de la location. Comme on loue une maison, ben, pas à toi, tu as le droit de l'habiter, d'utiliser, mais quand le bail est fini, ben oups! Puis c'est pour ça que les licences incluent des clauses dirimantes pour qu'on ait les droits d'accès perpétuels. Le transfert par écrit, ça, c'est quand on vend son droit d'auteur, quand on le cède. Okay? Souvent, les profs, quand ils écrivent des articles académiques, c'est un contrat de cession que les éditeurs savants leur proposent, surtout les gros éditeurs savants. Les Elsevier, etc. Puis là, ben, il y a toute une question de comment est-ce qu'on peut utiliser les contrats pour reprendre des droits, les regagner, les transférer. Ça, c'est là que ça se passe, ce débat-là. Mais fondamentalement, c'est pas le droit d'auteur le problème, c'est le régime contractuel qui a émergé par les pratiques sociales par-dessus. C'est ma thèse. Est-ce que c'est un contrôle absolu? Est-ce que je peux interdire toutes les situations? Ben là, vous le savez un peu, ça ne l'est pas, parce que l'Université Laval a possédé avec populaire. Ça peut pas être absolu si on a le droit. Ben oui, voilà. Ah oui, ça, j'ai mis citation ici. Un peu de Proudhon, hein? Mais c'est important de mentionner, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle, je vous le montrerai, mais il est sur mon iPad que j'utilise pour filmer, donc je peux pas arrêter la vidéo pour mon téléphone, c'est un peu dommage, mais c'est Peter Baldwin, qui est un chercheur, un prof en Grande-Bretagne, qui a pris les 400 dernières années du droit d'auteur, puis qui a fait une revue historique de toutes les revendications, causes célèbres et commissions parlementaires en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne puis en France. Hein. C'est comme War and Peace pour un juriste en droit d'auteur, là, ça se lit comme un roman de gare. Ah oui, puis il a dit ça. Mais c'est fou de constater qu'à travers le temps, les revendications qu'on entend aujourd'hui se répercutent là, depuis les 400 dernières années et plus encore. C'est vraiment fascinant de savoir que finalement, c'est pas si différent qu'avant. Il y a tout le temps des revendications, il y a tout le temps des groupes de gens qui essaient de changer des trucs. Mais ça, on va y revenir dans une seconde. Alors là, on parle de l'utilisation équitable, on parle des exceptions. Alors, si le droit d'auteur est interdit, l'exception enlève l'interdiction. L'exception lève l'interdiction. Okay? Puis en passant, fair use, là, vous l'avez entendu, là, pour les États-Unis. Regardez, il y a US ici. Fair use. C'est comme ça que je m'en rappelle la différence. Au Canada, c'est fair dealings. Puis la différence fondamentale entre les deux régimes, le régime américain et le régime canadien, c'est que dans le régime américain, le fair use a une définition ouverte. C'est les usages suivants sont permis tels que, puis là, ils listent des choses. Okay? Ce tel que-là fait que Google, quand il lit le Fair Use américain, il se dit « Ah! Je peux faire une copie de tous les livres de l'univers. » Ben oui, regardez, c'est un Fair Use. C'est comme dans la même idée, là. Je fais juste une copie pour mes usages internes, là. Puis dominer le monde. Mais juste une copie, tu sais. Au Canada, c'est pas le cas. Au Canada, on a un régime hybride. Parce qu'en France, les exceptions sont nommées, OK? Ils ont des exceptions précises. L'Union européenne, dans une directive de la Société de l'information en 2001, je crois, en a listé 14 ou 18. Là, les régimes, les pays peuvent décider d'avoir une exception pour la citation, une exception pour ci. On a aussi des exceptions précises au Canada, mais la grande différence entre le Canada et la France, par exemple, c'est que nous, on a une utilisation équitable où des usages assez larges sont nommés, mais ils ne sont pas aussi larges que les Américains, qu'on est comme entre les deux. Puis on en a rajouté trois, je les ai mentionnés plus tôt, la parodie, la satire, puis l'éducation. Puis l'éducation, en passant, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est gros, là, c'est quand même pas petit. Puis la différence entre la parodie puis la satire, je sais pas si c'est quelqu'un qui sait la différence fonctionnelle, c'est comme un peu technique, là, mais vous savez, c'est pour faire rire, hein? On sait pourquoi c'est pareil. La parodie, c'est qu'on utilise l'œuvre pour rire de l'œuvre. Puis la satire, c'est qu'on utilise l'œuvre pour rire de quelque chose. C'est la différence. Mais c'est quand même le rôle fonctionnel de l'œuvre dans la dynamique. Ça passe, OK. C'est ça. Donc, les cinq autres cas, les trois, je les ai mentionnés, parodie, satire, éducation. Puis les cinq autres cas, c'est la communication de nouvelles, la critique compte rendu, études privées puis recherche. Ça, c'est les cas anciens. Puis on a rajouté parodie, satire, éducation. Ce qui fait que quelqu'un qui veut, moi je suis au doctorat, puis j'ai besoin de me constituer un corpus pour analyser un corpus dans le cadre de mon doctorat, puis il faut que je fasse plein de photocopies ou que j'accumule plein d'œuvres protégées. C'est correct, c'est de la recherche, ça. Mais là, un étudiant en doctorat qui fait de la recherche, fine. Mais ma voisine, je ne sais pas qui, ça pourrait être ma femme, mais ce n'est pas, c'est ma voisine, qui aime faire des photocopies de recettes dans des livres de recettes. Est-ce que c'est de la recherche, ça? Elle recherche la recette de pain-viande parfaitement. Puis de tortillère. Non, mais ça se produit, là, si vous visitez les bibliothèques publiques, il y a des gens qui sont vraiment motivés par une démarche d'apprentissage et d'acquisition qui s'apparente à de la recherche. On ne sait pas, elle est où, la limite de cette exception-là. Puis c'est sûr que des gens comme des sociétés de gestion collective, comme Capitec, vont dire « Ben non, ça peut pas être ça la recherche. La recherche, il n'y a aucune recherche au primaire. » Ah, bon, c'est dommage. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Mais il y a certainement l'éducation au primaire, j'espère. Mais vous voyez un peu, là. Puis vous le verrez peut-être si vous faites des lectures sur le droit d'auteur, cette expression-là, « limitation et exception ». Ok. La différence... C'est pas la même chose. Copybeck est ici. Copybeck offre une limitation au droit d'auteur. Et exception, c'est vraiment d'utiliser sans payer. La différence entre les deux, c'est qu'une limitation, il faut payer. Une exception, il ne faut pas payer. Ce qui est pareil, c'est qu'on n'a pas besoin de demander au titulaire. Les deux, dans les deux cas, on ne demande pas au titulaire d'utiliser son nom. Quand une radio veut jouer... une toune de Taylor Swift, là. Il n'y a pas besoin d'appeler l'impresario de Taylor Swift. Savoir, est-ce que je peux jouer à telle toune de Réponds, ok, rappelez-moi, là. Allô? Tu sais, ils n'ont pas besoin de demander parce qu'ils ont une licence avec la SOCAN qui inclut dans son catalogue l'œuvre de Taylor Swift et ils vérifient, ah, elle, on peut la jouer, c'est beau. Mais cette utilisation-là est payante. C'est ça qui se passait avec, les recueils de texte dans les photocopies. Avant, pré-litige. C'était l'application d'une limitation. Donc, si vous avez lu le texte de Florence Piron dans Le Devoir, ben la rapporteure spéciale de l'ONU, là, qui a fait le rapport, qui disait qu'il faut avoir un accès au savoir, ben elle a utilisé l'expression « limitation et exception ». Fait que ça, c'est laudé, comme on dit en latin, parce que tout le monde va mettre ça pour dire « Ah oui, il faut faire plaisir aux sociétés de gestion collective et aux bibliothèques et aux archives ». Okay. Quand on voit cette expression-là ensemble dans un rapport, ça inclut Copybeck et une politique d'utilisation. C'est ça qu'il faut comprendre dans cette expression-là. Fait que finalement, c'est pas aussi innovateur que ça. Ça, il faut essayer d'expliquer ça à quelqu'un par courriel. C'est pas évident. Okay. C'était ça, un des trucs un petit peu plus...
est un peu moins précis dans l'intervention de Florence Piron dans le devoir.
Mais c'est important de comprendre cette expression-là parce que vous allez voir ça au niveau international, l'OMPI, l'ONU, ils utilisent tout le temps cette expression-là, mais ça inclut à la fois Copybeck et la politique d'utilisation accepteur. Puis si vous comprenez pas la subtilité, on peut s'en reparler. On va prendre une bière au pub universitaire après, hein, parce que moi, ça me donne soif parler. Là. Je me dis parce qu'il faut que je comprenne. Donc voilà, ça va là-dessus? Sinon, si vous ne qualifiez pas pour l'utilisation équitable, ou une exception, faut demander la permission. C'est très simple. C'est ça le... Tu sais, les gens, ils pensent que le droit d'auteur, c'est compliqué. Mais non, voyons, c'est très simple. Vous avez deux choix. C'est tout. Soit que tu invoques une exception, soit que tu demandes la permission. Ce qui est compliqué, c'est de choisir entre les deux. Tu sais, c'est comme... Ah, Coke, Pepsi, Coke, Pepsi... C'est ça le problème. Fait que c'est pas le droit d'auteur lui-même. C'est de comprendre comment articuler chacune de ces options-là à l'intérieur de notre contexte institutionnel, social, professionnel. C'est ça la difficulté. Okay? Mais fondamentalement, tu as deux choix. Quand tu n'es pas le titulaire, tu es juste un utilisateur. Exception, permission. Puis ça fait que j'ai, à travers les années, à travers les interventions, bâti ce fameux cadre-là. Et enfin, quelqu'un a généré une version plus jolie. Je ne sais pas si vous avez vu la version ancienne, c'est des couleurs criardes, c'est vraiment laid. Vous pouvez les trouver sur mon... Quelqu'un, un designer, a vraiment fait un travail beau. Alors, si c'est une question de droit d'auteur et que vous êtes dans un usage réservé, vous avez en fait quatre options. Je dis deux pour rendre la chose facile, mais c'est quatre options. Soit vous allez chercher une préautorisation. Puis par préautorisation, je veux dire une licence d'une société de gestion collective. Vous voyez s'il y a une œuvre que vous pouvez utiliser sous une licence Creative Commons ou les banques de données en bibliothèque. Ça, c'est une forme de pré-utilisation, de pré-autorisation pour nos communautés. C'est quelque chose qu'on fait. On paye pour que des gens utilisent librement une autorisation. Une autre option, c'est d'invoquer une utilisation équitable ou une exception. Okay? Dans ce cas-là, ça prend une politique institutionnelle. Chose que l'Université Laval a fait avant de décider de signer ou pas signer avec Copybeck. Ils ont établi, ils ont édité, à l'intérieur des instances universitaires, une politique d'utilisation basée dans l'utilisation équitable pour définir la limite raisonnable de l'œuvre, de raisonnable de l'utilisation, pour définir est où l'utilisation équitable. Puis ça, la Cour suprême, c'est ce qu'elle nous a dit, comment utiliser l'utilisation équitable dans un contexte universitaire, institutionnel, c'est d'avoir une politique qui définit la limite de l'utilisation. C'est ça qu'elle a fait, c'est très bien. Bon, l'Université Laval prend cette échelle-là et ça avance avec vous. Sinon, il faut demander la permission. Ça, c'est onéreux en termes de transaction. C'est pour ça qu'on va plutôt constituer des catalogues. C'est pour ça qu'on va plutôt constituer des mécanismes de licence automatisée. Puis qu'on va préférer les pré-autorisations. Parce que sinon, ça devient trop onéreux par tout le monde. C'est toutes les universités, toutes les bibliothèques, tous les profs qui veulent utiliser du contenu doivent contacter tous les titulaires. Puis quand on n'est pas sûr, c'est qui le titulaire? Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est un tiers? Ça devient compliqué à gérer. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir ça pour opérer le marché. Ou on crée une nouvelle œuvre. Ça, on l'a un peu oublié, mais c'est vrai qu'elle est là. Parce que, tu sais, il faudrait traduire cet article-là. T'en écris un nouveau. T'en cites 3-4. T'en écris un nouveau en français. T'as besoin de traduire l'article lui-même. Ce que tu veux, c'est des idées, il y a moyen de les faire. On fait un résumé de l'article en français, puis donne la référence. Quand tu fais le résumé d'un article, c'est une nouvelle œuvre. Tu possèdes les droits d'auteur, tu peux faire ce que tu veux avec. La référence bibliographique, c'est un fait, c'est pas protégeable par droit d'auteur. C'est une façon de s'en sortir. Là, ça prend l'originalité. Mais le point ici, c'est d'illustrer que, OK, j'avais dit deux, c'est quatre, en fait, là, mais les deux qu'on préfère, c'est l'utilisation équitable ou la permission. Oui, question?
Délai raisonnable, c'est quoi?
Merci. Bonjour, je voudrais utiliser une citation de votre article. Pourriez-vous me dire combien ça coûte ou les modalités d'utilisation? Non, là, j'avais vraiment. Écrire un courriel, bonjour, je voudrais faire 20 copies de votre pièce de théâtre dans un recueil de cours. Vous n'êtes pas parti, vous ne faites pas partie du corpus de la... C'est qui donc les pièces de théâtre? J'oublie. Il y a ceux-là, là. Sodra, je pense. Socal. Mais on n'a jamais de réponse. Fait que là, la pièce de théâtre est dans 2 mois, les acteurs... Tu sais, là, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui arrive quand
on demande poliment, on est diligent, on envoie, on veut payer, on est prêt à payer, mais on n'a jamais de réponse. Est-ce que ça nous permet de traverser directement à l'utilisation équitable? On veut faire une transaction, mais le co-contractant ne répond pas. Est-ce que ça nous autorise? Ah, dans quel contexte est-ce que ça peut nous autoriser à traverser d'un bord ou l'autre? C'est pour ça que je suis ici pour dire que c'est dynamique comme modèle. C'est pour ça que ça fait une politique aussi, on va définir si un délai raisonnable est épuisé de 30 jours, plus deux suivis, plus un courriel, plus un pigeon voyageur, bien là, on peut invoquer l'utilisation équitable.
Je pense qu'on a tout besoin d'une petite minute. Ça, c'est l'île aux perroquets, à côté des îles Maigan, dans le fleuve Saint-Laurent. Et depuis peu, on peut réserver des chambres ici et aller passer nos vacances. Alors moi, je m'imagine taper un chapitre de thèse ici en haut là, du phare lumineux en lumière.
Okay, d'accord. Alors, on va revenir à nos moutons. Est-ce que vous vous sentez un peu plus d'attaque pour...
Est-ce que vous connaissez un petit peu mieux le droit d'auteur maintenant? Si je vous dis, qui a lu la politique d'utilisation équitable de l'Université Laval ici?
Tout le monde, levez la main! Oh wow, c'est vraiment génial de voir que tout le monde a levé spontanément la main!
On va parler de comment moi j'essaie de comprendre le droit d'auteur pour voir c'est quoi l'opinion qu'on peut se former de l'Université Laval. Parce que, oui, OK, j'ai mes valeurs, spontanément, je peux avoir une réflexion par rapport à « il aurait dû ou il aurait pas dû ». Mais essayons de comprendre, essayons de développer des outils pour disséquer la situation un peu mieux, pour comprendre c'est quoi la dynamique qui est en train de se produire à l'Université Laval avec le Québec. Entre autres, parce que honnêtement, ça pourrait être n'importe quelle dynamique reliée au droit d'auteur. Mon idée ici, c'est qu'il y a un cas précis, Copybec, qui intéresse tout le monde, mais mon modèle... Je me fais tellement poser des questions du droit d'auteur à cause de mon blog, à cause du réseau que j'ai, des collègues un peu partout au Québec qui ont des questions, puis il n'y a personne pour leur répondre. J'ai un peu essayé de disséquer ça, puis ça donne que c'est où je vais faire au doctorat, fait que je vais vous assujettir cette partie-là de mon plan. Mais j'utilise deux approches. J'utilise une approche économique pour essayer de comprendre la dynamique économique. J'utilise une approche sociologique où je regarde les relations de pouvoir, les groupes, puis l'émergence de normes à l'intérieur de réseaux d'intervenants. Par contre, j'aurais juste arrêté ici puis sauté 18 à 7 ans. Mais c'est pas si pire. Regardez comme elles sont belles, là. Il y a pas tant de texte que ça. La première réalité d'une œuvre protégée par droit d'auteur du point de vue économique, là, pis ça, on l'entend parler. On en entend souvent parler de ça. Le savoir, c'est un bien public. L'éducation, c'est un bien public. Mais un bien public en économie, c'est une définition fonctionnelle extrêmement précise. Puis effectivement, ça se conforme à la définition de bien public. Parce que c'est non-rival et non-exclusif. Okay? Je vais vous donner un exemple de c'est quoi être non-rival, non-exclusif. Je préfère des exemples sexuels, mais j'ai essayé une fois, puis ça devient trop glissant rapidement. Les gens, ils viennent tout rouge, puis ça marche pas. Un bien public, donc, un fichier MP3 de musique. Okay? On va présumer qu'il est dans le domaine public pour rendre tout le monde plus confortable. C'est... version numérisée dans le domaine public. Quand là, je vous fais une copie, là, moi, j'ai une copie du fichier. Il est identique. Peut-être avec un peu du bitrot, puis les informaticiens diront qu'après N nombre de copies pour les gros fichiers, puis il y a des petits problèmes de dégradation. Mais pour un fichier MP3 là, en plus ou moins basse résolution, là, il est identique en toute pratique. Okay? Donc, il est non. Identique, puis ça ne dégrade pas. Quand on faisait des photocopies, de photocopies, il y avait une dégradation aussi. Okay? Ensuite, une fois que je t'ai donné la copie, là, ben toi, tu peux en faire des copies puis la distribuer à autrui. Je peux plus t'arrêter de la distribuer. Fait que ça devient viral. Ça, on en entend parler, là, ça devient viral. Fait que, fonctionnellement, le numérique se comporte comme un bien public, du point de vue de la non-rivalité et de la non-exclusion. Je peux pas exclure autrui une fois qu'ils ont une copie. Puis une fois qu'il y a une copie, l'original est pareil. C'est pas comme si je mangeais une pomme. Quand j'ai mangé la pomme, il n'y a plus de pomme. Rival exclusif. Je détruis la pomme en la consommant et tu peux plus consommer la même pomme que j'avais parce que je l'ai mangée. Ça, c'est un exemple d'un bien privé, c'est un bien de consommation, c'est une commodité. Ça, on en entend parler. Du blé, du sirop d'érable, catégorie A, c'est des biens privés. Exclusion, rivalité. Donc, ce qui arrive ici, c'est que, de par sa nature même, elle se comporte comme un bien public. Un bien public, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons. Puis, il y a certaines institutions dans la société qui maintiennent le statut de bien public de ces choses-là. Quand je tombe à ma pelouse l'été, là, en Bédène, là, comme bon Québécois, là, je regarde la maison de mes voisins, puis la réglementation municipale qui m'empêche de peinturer ma maison en orange ou en fuchsia, ça met un bien public. C'est la beauté du voisinage. C'est quand même un bien public qui appartient à tout le monde. Les gens passant dans la rue peuvent maintenir ce bien. J'ai ici quelques philosophes, là. Je voulais mettre Hayek et Polanyi sur la même acétate, là. Ça me fait plaisir de les voir qui se regardent à travers le milieu, là. qui se contemplent parce que c'est des contemporains puis ça sont écrits. Alors, c'est ce que j'appelle le paradoxe quantique parce que l'œuvre protégée a les mêmes paramètres en même temps. Ces deux-là existent en même temps dans le fichier MP3. Il est à la fois un bien public et un bien privé à cause du droit d'auteur. Ce qui le ramène de ce bord-ci, c'est le droit d'auteur qui lui impose un régime d'interdiction qui s'apparente à la propriété. C'est quantique parce que la particule œuvre protégée a les deux valeurs en même temps. C'est ça la tension qu'on vit actuellement. Parce que oui, tout le monde pourrait partager les fichiers MP3, puis ça serait donc bien cool d'avoir la bibliothèque céleste, là. La Celestial Jukebox, qui était un rêve à l'époque, dans le temps de Napster, là, je me date, là, on parle du milieu des années 90, pré-bulle Internet, là. Mais ça serait donc bien beau, tu sais. Mais en réalité, le droit d'auteur, les régimes de, qui est un régime de pseudo-propriété pour différentes raisons, ramène le contexte économique de l'œuvre au marché, à la transaction, à la propriété. OK? Fait que cette tension-là est bien réelle et elle a été étudiée par d'autres chercheurs, cette dynamique-là quantique. Et puis ça, c'est ce que j'appelle le continuum du consentement. Puis vous les avez les options ici. Vous avez l'utilisation équitable, la limitation qui est copyback, la licence, la cession, ça c'est une vente, la licence c'est la location, jusqu'à la violation, hein, parce qu'on oublie la violation. C'est une façon d'utiliser les œuvres. Les juristes n'aiment pas penser de même. Là. Ah non, c'est illégal, les gens font pas ça. Chut, on leur dira pas, OK? Mais mon point ici, c'est que dans ce continuum-là, les lois et les juridictions, là, ils font juste changer la distance entre chacune de ces options-là. Puis c'est vu en termes de risque. La violation, c'est la façon d'utiliser une œuvre qui est la plus risquée. Tandis que demander l'autorisation du titulaire, c'est la moins risquée. Ça, c'est les versions payantes. Ça, c'est des versions gratuites. Donc, une licence libre comme Creative Commons, c'est une licence qui est gratuite. Fait que c'est une façon de comprendre un échiquier. Donc, ce qui va permettre à l'œuvre de passer du côté bien public ou bien privé, c'est ce continuum du consentement, où il y a beaucoup de consentement du titulaire de ce côté-ci, et où il y a très peu de consentement, mais beaucoup de risques. Alors, on peut voir ici la relation proportionnelle. Non, inversement proportionnel, plus il y a consentement, moins il y a de risque. OK? Puis, il y a de la violation qui coûte rien quand on se fait pas pogner. Mais quand on se fait pogner, ça coûte cher. C'est ça qu'il y a aussi violation en haut, on joue les deux bords. Puis, il y a toute une théorie économique sur comment réprimander, c'est quoi la valeur optimale d'une réprimande pour dissuader. En tout cas, ça, je tomberai pas là-dedans. Là, mais le point ici, c'est que ce sont quand même des options, mais il y a un échiquier. Alors, c'est facile. Qu'est-ce que l'Université Laval a décidé de faire? Ben, il a décidé d'utiliser une option plus risquée pour aller générer un bien public, pour utiliser une œuvre d'une façon licite, légale. C'est tout. Mais elle est quand même, ça fait partie du continuum des possibilités d'utiliser une œuvre d'une façon légale. Voilà. C'est fou résumer un chapitre complet de thèse en une acétate, là. Ça fait mal au cœur. C'est comme 50 pages, c'est pas. Ça aussi, c'est pour les sociologues dans la salle. J'ai utilisé beaucoup Luhmann, qui a théorisé sur les systèmes sociaux puis les interactions entre les agents. Et lui, c'était en fait un juriste, Niklas Luhmann, qui est très connu comme prof en sociologie, mais avant d'être sociologue, avant de faire ses études en sociologie, était avocat. Tout comme Leibniz, qui a été bibliothécaire aussi, mais ça, j'en parlerai pas.
très intéressant ce qu'il a dit.
Mais bon. Et ce que lui dit, c'est que quand une communication, mettons la question, est-ce que je peux utiliser une œuvre? Ça doit passer par le système légal. Puis le système légal, là, c'est oui ou non. C'est légal ou illégal. OK? Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que les bibliothèques, on peut changer la façon que la question est posée pour changer la réponse qu'on reçoit. Fait qu'au lieu de dire, est-ce que j'ai besoin d'obtenir le consentement pour utiliser une œuvre? Là, la question, c'est oui ou non. C'est est-ce que l'utilisation équitable est une façon légale d'utiliser une œuvre? Alors, les bibliothèques, notre rôle dans le corps universitaire, c'est de changer la façon qu'on pose la question au système juridique. C'est un des pouvoirs qu'on a, les bibliothécaires. Hein? On sent... Oui, question?
Une question sur le consentement.
Oui.
Je vais pas trop vous poser cette question-là, mais mettons Aaron Swartz.
Qui?
Aaron Swartz.
Ouais, pauvre feu Aaron Swartz, ouais.
S'il avait été au Canada, il avait fait exactement la même chose. Est-ce qu'il aurait été considéré comme... Au même point
dans le excellente question. Aaron Swartz, donc, qui est celui qui a inventé Reddit, celui qui a codé Reddit, dans son impulsion de rendre le savoir libre, a pris un ordinateur dans un placard de MIT et a fait un script qui téléchargeait tous les articles de JSTOR. Et c'est ça qui est un peu difficile avec la question que tu me poses. C'est que c'est pas à cause du droit d'auteur qui a eu des problèmes. Oui, OK, le droit d'auteur, c'est le contexte. Mais c'est une loi de 1986, c'est le Computer Crimes Act, qui criminalisait le hacking. OK? Et c'est le procureur de l'État qui a décidé de le prendre comme exemple de maudit hacker qu'on doit mettre à sa place. OK? Donc, c'était en réalité, là, quand tu lis sur la question, c'était pas MIT qui a voulu le press charges ou aller le chercher. C'était pas JSTOR non plus, parce qu'il s'est excusé, il a supprimé les documents. Tu sais, ça s'est su assez rapidement. JSTOR, il a vu qu'une adresse IP était en train de télécharger trop de documents. MIT, trouver l'adresse, trouver l'ordinateur, ouvre le placard, débranche l'ordi. Mais c'est le gouvernement américain, par son procureur, qui a décidé de frapper fort pour faire d'Aaron Swartz un exemple. Et le problème, c'est que ça te donne un dossier criminel, t'es un felon, quand t'es jugé coupable, puis même si tu t'en vas en appel, puis il y avait plein d'amis juridiques, tu sais, en droit, puis des avocats qui voulaient le protéger, ça aurait quand même ruiné une bonne partie de sa jeune vie adulte. Puis ça a été trop pour lui. C'est vraiment triste. Donc, l'idée, c'est que s'il avait été au Canada, là, il faudrait voir dans le code criminel, il y a des dispositions similaires, puis là, avec C-51, je veux même pas aller là, mais probablement qu'avec 1651, il serait cuit. Mais tu vois, genre, c'est pas le droit d'auteur. Le droit d'auteur, ça a été le contexte, mais en réalité, c'est un autre régime juridique qui est venu intervenir là-dedans.
Parce que 1651, c'est équivalent à cette loi-là.
Non, mais c'est parce que c'est juste qu'il est vraiment evil. Parce qu'il y a du terrorisme là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, mais il faudrait voir dans le code criminel comment est-ce qu'on criminalise le hacking, là. Je sais pas ça serait quoi le terme juridique, mais je m'y connais un petit peu moins dans ce contexte-là. Mais c'est une excellente question parce que ça met quand même en lumière un cas de violation. C'était, avant d'être une violation du droit d'auteur, c'était une violation des termes de licence de JSTOR, qui interdit le téléchargement complet de la base de données. Fait qu'il faut aussi garder ça en tête, puis ça réitère, ça renforce mon point de l'importance des contrats. On va sauter en avoir avancé. Je regarde là. Parce que je finis dans 5 minutes, mais il me reste... Ben, j'ai presque fini mes acétates, honnêtement. Je suis pas si pire pour ça. Ici, c'est pour illustrer les trois joueurs dans le droit d'auteur. Puis c'est aussi pour démontrer à quel point je suis pourri en art. C'est surtout pour prouver que je suis pas un artiste. Il y a trois agents fondamentaux dans l'équation. C'est un tango à trois. Okay? Baldwin parle d'une danse à trois, mais je vais tango à trois. On a le créateur, on a l'industrie qui est au centre, et on a les utilisateurs, les bibliothèques, les écoles, les gens, nous. Okay? Et oui, il y a des personnes partout, mais au centre, c'est une machine néolibérale qu'on connaît. Là. Je ne tomberai pas dans l'apologie de tout ça. Mais ce que je veux relater, c'est qu'il y a des échanges de droits et d'argent qui se font. Et une des modifications, c'est que les créateurs peuvent aller directement contacter les utilisateurs, donc avec un blog ou en mettant sa musique sur Bandcamp. Il y a maintenant des moyens de contourner le rôle de l'industrie qui fait une sélection. Tu sais, Sony, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a, Puis n'importe quel éditeur, que ça soit pour des textes, whatever, il fait une sélection de contenu, c'est pas tout qui est édité, puis elle améliore le produit. Améliore l'œuvre intellectuelle, l'œuvre artistique. C'est les deux fonctions de l'industrie. Puis elle la met en marché, en l'améliore, en trouvant le marché. Puis là, avec Google, bonjour, ça va être algorithmique. Le point important ici, c'est que le statut de Tovan en 1708 était pour régler des conflits entre éditeurs. Les éditeurs se plagiaient les uns des autres. T'sais, un éditeur sortait un livre, faisait chou blanc, on l'oubliait, l'éditeur perdait de l'argent. Un livre était populaire, d'autres éditeurs se mettaient à le copier. Parce qu'avant, il y avait le Stationery Union, qui était une guilde qui réglementait la pratique entre les éditeurs britanniques au 17e siècle. Au 18e siècle, la guilde est tombée et les éditeurs se plagiaient entre eux. C'est pour ça qu'on parle de copyright en anglais. Parce que la première loi réglementait les acteurs industriels. La première loi française au début du 19e siècle ou à la fin du 18e, là, dépendamment, a importé l'idée du copyright. Mais ça a pris des revendications comme Victor Hugo, comme la Société des gens de lettres, Beaumarchais, etc. Il y a des beaux débats autour du droit civil, parce qu'il y avait aussi l'émergence du droit civil entre le 18e et le 19e en France, qui a changé la donne. Les contrats avaient un rôle différent à jouer dans du statute law. Je ne tomberai pas dans l'historique du droit, mais c'est quand même beau à voir comme dichotomie. Et les auteurs ont demandé d'être représentés dans le texte français de la loi. C'est pour ça qu'on parle de droit d'auteur en France, parce que la loi française, quand elle a été réformée au 19e siècle, pour différentes raisons, est partie de la base de l'auteur. Et pendant longtemps, les deux systèmes étaient parallèles. Fonctionnellement, ils marchaient ensemble, mais ils étaient sur une base différente. Les Britanniques avaient une approche utilitaire, commerciale, tout était commerce, tout était industriel, tandis que l'approche franco-germanique partait de l'auteur comme étant que l'œuvre avait été investie de l'esprit de l'auteur et qu'il fallait préserver ce lien sacré. Ces deux perspectives philosophiques différentes ont convergé jusqu'à la fin du 20e siècle, où les Américains ont réalisé que finalement, ce qui est génial avec l'approche européenne, c'est qu'on leur donne, on donne plein de droits perpétuels aux auteurs, puis tout ce que l'industrie a à faire, c'est les reprendre par contrôle. Fait que les Américains ont comme laissé tomber l'esprit utilitaire, parce que n'importe qui a vu une courbe d'offres et de demandes, tu sais, à un moment donné, ça plafonne, puis il y a comme c'est asymptotique, fait que l'utilité a une efficience marginale. Ça arrête de générer de l'utilité après un certain temps. Fait que ton droit de propriété, il arrête dans la perspective utilitaire, mais pas dans la perspective du droit d'auteur. Puis ça, c'est ce que Peter Baldwin a noté, que depuis que les États-Unis ont tout le temps été à la remorque de l'Europe pour le droit d'auteur. Oui, il y avait des industries super efficaces, mais c'est en partie parce qu'ils plagiaient autant au 19e siècle. Que là, ils ont compris la perspective de la politique de la réforme du droit d'auteur et que les Américains, ils n'ont pas donné des droits moraux à personne, parce qu'ils sont quand même pas fous, les Américains, là, pour rapport à leur industrie, mais ils ont quand même commencé à avoir la rhétorique du droit d'auteur dans leur... C'est vraiment fascinant, ça. Puis je suis d'accord avec Peter Baldwin là-dessus. Donc, 18e siècle, industrie, 19e siècle, auteur. Puis ce qu'on voit émerger comme paradigme maintenant, c'est les utilisateurs au 21e siècle. Avec les exceptions qui sont étendues au Canada, avec la Cour suprême qui valide les exceptions, avec Google qui pousse pour utiliser des œuvres sans rémunérer sous le fair use, avec le numérique qui fait changer les choses, on voit l'émergence au 21e siècle de l'utilisateur. Ça, c'est vraiment fondamental. Puis dans la longue période historique, ça serait intéressant de voir le rôle des bibliothèques, hein, pour les chercheurs. Comment les bibliothèques se sont positionnées par rapport à la réforme du droit d'auteur à travers le monde. Et ça sera un jour, quand je serai bien vieux et j'aurai beaucoup de temps, je ferai cette étude-là. Un autre moment zen, mais je pense que on va aller vite pour le reste. Quel droit d'auteur? Ben, je vous l'ai dit déjà, le droit d'auteur va bien. Il n'y a rien à déclarer. Continuez, circulez. C'est fini. Puis là, j'ai fait une analyse des licences Copybeck, de la licence Copybeck et des termes en licence universitaire. Et ce qu'il faut, la problématique selon moi, c'est qu'il faut repenser, ça c'est ma façon gentille de dire que l'Université Laval a raison, là. Il faut repenser certains modèles de gestion de la gestion collective du droit d'auteur. Ça, je suis d'accord avec l'Université Laval que La licence CopyDeck n'est plus pertinente, puis je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a quand même des faits à noter. Ça ici, vous voyez, c'est l'évolution des dépenses en bibliothèque depuis les 10 dernières années. Puis on voit là qu'il y a des pics et des jalons, là, mais la tendance générale, c'est vers une augmentation. Okay? Donc, on se situe à peu près à 75 millions de dollars en l'année 2011-2012, la dernière année que la crypto qui avait des statistiques, c'est aussi la dernière année des sources de crypto. Donc, 75 millions de dollars, donc une augmentation constante. Fait qu'on voit que les bibliothèques achètent. Ce qu'on voit ici, c'est la progression des dépenses en ressources électroniques. Okay? Puis, ce qu'on note, c'est que à la dernière année ici, les ressources électroniques représentaient 75% des dépenses des bibliothèques universitaires. Fait que les ressources électroniques, ça représente 75% des 75 millions de dollars qui sont dépensés en bibliothèque. Fait que quand les bibliothèques achètent, maintenant, c'est plus juste des livres papier puis des abonnements papier. À 75%, c'est gros, là. Ça veut dire que quand moi, je suis CopyDeck, j'essaie de vendre juste des droits de reproduction, ben le corpus sur lequel ce droit de reproduction s'applique en bibliothèque, il diminue à chaque année parce que les bibliothèques achètent de moins en moins du papier. Puis le paradoxe fondamental, puis c'est ça que je suis en train de déterminer dans mon doctorat, c'est quoi que ça implique un abonnement à bibliothèque? Ça implique deux choses. Ça implique qu'on a le document numérique et qu'on a le droit d'accès. Ça veut dire que par l'entremise des dépenses de bibliothèque, puis soit dit en passant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait combien les bibliothèques de l'Université Laval dépensent à chaque année? C'est 12 millions de dollars. Fait que la licence de CopyDeck qui était entre 600 et 700 000, c'est quand même c'est gros, mais c'est pas aussi gros que la dépense des bibliothèques. Alors, moi, si j'étais un juriste, si j'étais un avocat pour l'Université Laval, je plaiderais que non seulement l'Université Laval est diligente pour obtenir des droits numériques auprès de tiers privés, auprès de gens qui détiennent les droits, mais je dépense plus d'argent et je suis diligente pour utiliser ces ressources-là. Le deuxième point, c'est le corpus sur lequel s'appliquent les droits de reproduction de CopyDeck diminue d'année en année pour tendre vers zéro. Si j'étais le maître de l'univers, et je ne le suis certainement pas, mais j'essaierais de convaincre CopyDeck de recevoir les versions numérisées des bibliothèques, des articles faits sous l'utilisation équitable pour constituer une base de données de documents numériques qui utiliserait l'utilisation équitable pour une première numérisation et toutes les autres universités, avant de numériser, vérifieraient si le document est disponible dans cette base. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est économiquement fiable. Ça sert à rien que toutes les universités renumérisent le même document semestre après semestre ou année après année. C'est pas économiquement viable, c'est pas une utilisation des ressources. On numérise une fois, on numérise bien, et tous ceux qui veulent l'utiliser après ne font que repayer un droit d'auteur minime. Comme on fait avec ProQuest, comme on fait avec JSTOR, comme on fait avec Project Muse. Sauf que la numérisation, elle est distribuée parmi les bibliothèques, et c'est CopyDeck qui gère la base de données, ou les bibliothèques, la Bibliothèque nationale, et aussi la redistribution des droits. Ça serait une façon efficace de monter une transaction. Mais la politique, les volontés, les égos. Mais l'accès, le droit d'accès présuppose deux choses, le document numérique et les droits. C'est pas ce que CopyDeck vend, puis je suis désolé, mais c'est plus pertinent. On a des chars, on a besoin d'essence, puis ils vendent du foin. C'est plat, mais c'est comme ça. Puis tiens, on peut pas leur dire que ça fait 10-15 ans que tout le monde dit le numérique, c'est un coup de chance. Ben là, on est là. 75% des acquisitions bibliothèques, ce n'est que du numérique, puis ça implique les droits imbriqués avec les documents. C'est drôle, là. On n'est plus à 5-10%, 75%. C'est encore probablement plus, parce que mes chiffres datent de 2012, les autres données sont pas diffusées encore par le BCI. Ça, c'est juste une petite note pour dire que dans la licence CopyDeck à 5.6, l'ancienne, pas la courante, je suis encore en train de les analyser, là, mais l'ancienne, il disait que on vous vend des droits, mais on peut pas certifier l'accès aux documents. Fait que oui, vous avez payé des droits, mais les documents, on les a pas, là. Vous les avez pas, puis on s'entend qu'ils sont pas là, puis ils sont nulle part. Là. C'est dans la licence. Pour plus de certitude, la licence s'applique aux utilisations autorisées des œuvres du répertoire sans égard à leurs sources. Il est entendu et convenu que CopyDeck ne concède pas aux usagers autorisé de licence en garantissant un accès aux œuvres.
Fait que, tu sais, c'est essentiellement pour dire, ben, allez voir dans vos bibliothèques, là, parce que nous, on les a pas, les livres que vous voulez utiliser, de toute façon. Mais ça, ça prouve un peu, selon moi, que le marché qu'ils proposent est plus pertinent en fonction des acquisitions dans les bibliothèques du domaine numérique. Selon moi, c'est ça le clou, là, mais ça me fait plaisir d'articuler en 500 mots pour le devoir bientôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est simple. Ça prend des politiques institutionnelles pour définir l'utilisation équitable, la limite raisonnable, ce que l'Université de Laval a fait. Excellent.
Ils doivent lire mon blog.
Je trouve que c'est excellent. Mais ils continuent en parallèle de bâtir des collections de bibliothèques et d'investir dans les bibliothèques. C'est ça le point aussi. Là. C'est parce que s'ils coupaient dans la bibliothèque puis on voyait que les dépenses diminuaient puis ils coupaient CopyBec, là, l'argument il serait moins fort. Fait que financer bibliothèque. Et moi, ma conception radicale des exceptions, parce que les exceptions, c'est vu comme étant mauvais, mal, méchant. Ma conception radicale, c'est que ça représente un investissement dans l'œuvre. Quand une université numérise un texte pour le mettre en réserve électronique pour une utilisation, c'est un investissement. Ça coûte de l'argent à l'université. C'est juste dommage que cet investissement-là soit perdu dans la société. Parce qu'on le jette. C'est dommage. Mais c'est quand même un investissement. Parce qu'on en fait la promotion. Ça signale la préférence. Le fait que les bibliothèques invoquent des exceptions pour offrir des services à valeur ajoutée à leur communauté, si j'étais un titulaire intelligent, ben je regarderais qu'est-ce qui se passe dans les universités puis leur dire « Ah, il y a des systèmes de gestion de cours en ligne, les étudiants veulent du numérique, les universités achètent du numérique, mais mon Dieu, c'est ce que je vais leur vendre. » Donc, on signale les préférences. On fait tout un travail de débroussaillage pour éduquer les communautés puis leur montrer comment s'approprier le numérique. Mais ça, c'est pas vu comme ça. On vole, on pille. T'sais? C'est ça qui est dommage. Ouais, puis c'est peut-être ce dernier point-là, c'est qu'on optimise les prix. Ben, si on voit que quelque chose coûte trop cher, ben là, on a une alternative qui est pas gratuite parce qu'il y a un coût à l'utilisation équitable. Il y a un coût matériel, il y a un coût en ressources humaines, il y a un coût en espace. Mais le meilleur prix pour une œuvre, c'est son coût de numérisation moins 1$. Parce que ça serait le coût de numérisation qu'une bibliothèque utiliserait ou devrait dépenser pour numériser l'œuvre. Ben, le titulaire légitime, il y a juste à le faire que c'est un petit peu moins cher que ce coût-là, mais ben là, ça devient économiquement viable de s'abonner. Là, je suis un peu exagéré, mais vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Ça, c'est l'innovation. Ça. Moi, j'ai tout mon temps. Tant que le soleil est pas couché, je suis avec vous.
L'innovation, les limites de la réflexion, du commentaire.
Ouais, ouais.
La situation actuelle, les éditeurs en sciences humaines, entre autres, qui n'ont pas encore de publication numérique, parce qu'il y en a, est-ce que ça leur donne le goût d'accélérer ou de ralentir le processus de passage au numérique?
C'est sûr que la tendance lourde dans les acquisitions des bibliothèques à travers le monde, c'est vers le numérique. On se le cachera pas. Moi, je pense à mon université, à Concordia, où on est jeune encore comme université, 38 ans. Oui, on a une historique qui est beaucoup plus ancienne, mais quand même, on n'a pas beaucoup d'espace, on a un corps étudiant croissant. La place pour les livres sur des rayons, on se pose sérieusement la question, quand est-ce que ça vaut la peine d'avoir un livre sur un rayon? C'est sûr qu'il y a certains types de livres, certains types de publications, ça va être inévitablement le papier. Par exemple, en histoire de l'art, ou tout ce qui est art visuel, on peut pas avoir le même niveau de qualité que le papier, parce qu'on peut standardiser l'affichage sur papier, tandis que sur écran, ben là, ça dépend de la résolution, des cartes graphiques, tout ça. OK, fin. Okay, bon. Il y a aussi d'autres domaines là où ça prend du papier pour différentes raisons. Mais le message est clair. C'est que quand on le compare maintenant avec des collections massives numériques, le coût du document papier change. Puis il faut avoir une réflexion professionnelle et bibliothécaire et les institutions. Là, que les gens achètent des livres ou non, ça, c'est une autre paire de manches. Mais je sais pas si tu vois où est-ce que je veux en venir, là. Tu sais, qu'ils le veuillent ou non, c'est plate, mais le rouleau compresseur est en train de passer, là. Puis je pense que ça va prendre encore une génération. Mes filles à moi, qui sont encore jeunes, donc 4 puis 2 ans et demi, là, quand elles vont être à l'université, ça va être quand même dans 15, 16 ans, là, 20 ans, ça dépend combien de temps elles passent sur ces jeunes. Mais le point, c'est ça, c'est
Quelle sorte d'expérience vont-elles avoir à l'université dans 20 ans, dans 15 ans? T'sais? Actuellement, moi, j'ai fait le défi de juste utiliser un iPad pour mon doctorat. Alors, c'est sûr que là, avec Word et EndNote, ça ne marchait plus parce que la faculté de droit a des standards bibliographiques. Ça me posait problème d'utiliser juste l'iPad puis de faire ça dans le nuage là, avec des Google Docs et tout ça. Mais au moins, toutes les sources que je lis sont là-dessus. J'ai été capable de le faire quand même assez bien pour ça. Sauf quelques livres de quelques éditeurs français ou belges, parce qu'ils comprennent.
Mais c'est ça, là. Moi, c'est quand c'est des maisons d'édition qui n'ont pas d'image dans leurs livres, qui n'ont même pas des si beaux livres que ça, qui les vendent cher, qui ne veulent pas encore faire de livres numériques. Ben voilà, c'est quoi votre raison?
Moi, je pense que la question qui est encore plus intéressante, si tu me permets de mettre sur tes épaules, ou de mettre à ta place, c'est plutôt poser la question, les gens qui écrivent là pour les maisons d'édition, là, à quoi est-ce que vous pensez? Parce que, OK, les éditeurs qui offrent un commerce en particulier puis une façon de faire, ça leur est propre. Mais des gens qui écrivent, tu peux écrire où tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais quand c'est des employés universitaires, quand c'est des profs qui sont payés par l'État, qui ont une charge, une responsabilité, la liberté académique stipule que le choix est là de publier dans ces revues-là, dans ces éditions-là. Par contre, la meilleure chose à faire dans un contexte où il y a un droit fondamental, parce que la liberté académique, c'est fondamental, ben, c'est d'en trouver un autre droit fondamental pour le confronter. L'autre droit fondamental universitaire, c'est la collégialité. La collégialité d'avoir un groupe de personnes légitimes qui ont un argument pour dire, écoutez, là, ça marche plus l'affaire. Là. Je pense que c'est ça l'intervention de Florence Piron qui était la plus pertinente, c'est de dire, oui, les bibliothèques achètent du numérique de plus en plus, puis oui, ça s'insère dans ce débat-là avec Copybeck, mais ça, c'est de regarder le problème de trop proche. Si on prend on se dégage de tout ça, là, on pourrait utiliser un outil comme Pressbooks, qui permet de faire des EPUB, puis des PDF de livres extrêmement professionnels pour 70$. Si tu veux pas la filigrane, si tu veux la filigrane dans ton fichier, c'est gratuit. Puis ça permet de faire une édition numérique qui ressemble tellement à the real thing que tu saurais pas. Donc, d'avoir ce débat-là, puis de dire, écoutez, comme membre de la communauté universitaire, je vais amener ces arguments pour dire que l'édition numérique, on est rendu là à avoir cette conversation-là. Puis vous pouvez avoir vos pratiques, vos façons de faire, c'est correct, c'est pas ça que je vais attaquer. Mais réfléchissons au système, réfléchissons aux questions économiques, puis aux questions sociales, puis voyons qu'est-ce qui en découle. Puis la solution de dire... numérique, en ligne, sous licence libre, c'est quand même un argument assez fort, selon moi. Ça va prendre du temps pour que ça infecte le corps universitaire, là. Mais tu vois un peu ce que je veux dire. Mais selon moi, le champ de bataille, c'est pas les éditeurs, c'est les auteurs. Surtout les auteurs à l'université. Puis d'ailleurs, pour les thèses et mémoires, hein, ça s'en va dans des dépôts institutionnels. PDF, Internet, là. Le temps où votre thèse était sur un rayon de bibliothèque, c'est fini. Je sais pas si ça vous cause du chagrin, là. Mais il y a des gens que je le dis aux doctorants puis aux futurs maîtres à l'université. Votre thèse, mais va être sur Internet. T'es pas sérieux, je veux pas que ça aille sur Internet. Ben, ça fait partie de ton travail intellectuel. Ben, c'est sûr qu'on va le mettre sur Internet. Ben, c'est le meilleur endroit où le garder. Il y a pas d'autre endroit. Tu sais, une clé USB? Non, attends, là. Fait que moi, selon moi, c'est ça le point d'entrée dans la conversation. Les éditeurs, après ça, ben... Ça.
Ce qui n'est pas calculable dans tout ça, et ce qui fait, entre autres, que la résistance, c'est la question de la valeur symbolique. Il n'y a rien à faire ou la caution. J'ai beau faire un ouvrage, de l'éditer moi-même, de foutre sur Internet... Ben, c'est pas le seuil, c'est pas telle presse, c'est pas etc. qui amène une aura, alors que souvent le travail fait sur le manuscrit, c'est so-so.
Ouais.
Parfois, le travail éditorial est pourri.
Ouais.
Mais néanmoins, il y a le soleil qui brille au-dessus, qui donne la valeur. Mais c'est ce jeu-là de la valeur qui est à reconstruire et qui était le problème en contexte numérique.
Je vais vous le dire, on a une nouveauté, je prêche pour une paroisse, l'Université Concordia, les bibliothèques. On va lancer les presses de l'Université Concordia. Prochainement. Ça a été annoncé, on a eu du financement, mais nous, ce qu'on va faire, puis on n'est pas les seuls, hein, l'Université d'Ottawa le fait, même les presses de l'Université de Montréal ont la collection Parcours numérique, c'est la Athabasca dans l'Ouest qui fait ça aussi. Au lieu qu'un livre soit édité, vendu 50$ et qu'il y a 10 000 bibliothèques qui l'achètent, parce qu'on s'entend, hein, les étudiants, on n'achète pas des livres, là. Ils achètent des textbooks, là. Ils achètent des recueils de textes, là. Mais
les livres, c'est les bibliothèques, le marché, pour la monographie.
Au lieu que ce soit 10 000 bibliothèques qui achètent le livre à 50$, donc une valeur marchande totale de 1 000 000 de dollars, pour un coût de production de peut-être 50 000, 15 000, 50 000, pour un livre, ça coûte de 4 000 à 50 000 dollars, à peu près, dépendamment de la valeur, du démarchage pour les droits d'auteur. C'est ça le coût matériel d'une monographie, le seuil ou whatever, c'est à peu près ça le coût qu'ils font. Après ça, quand le livre passe dans le collimateur des librairies, là, tout le monde se prend une cote, puis il en reste plus beaucoup pour l'éditeur, puis encore moins pour l'auteur. Mais le point ici, c'est que ce coût-là, upfront, là, au lieu que ça soit 10 000 bibliothèques qui se le partagent, puis que ça fait des plumes dans le vent un peu, les livres, là, ben peut-être que chaque bibliothèque universitaire pourrait investir dans une maison d'édition, puis tu payes une fois pour le travail intellectuel de sélection, d'arrangement, tout ça, dans une institution universitaire. Les serveurs sont dans l'université. Et ça coûte de l'argent. Il y a quelqu'un qui paye, qui est une reconnaissance formelle, il y a un mécanisme, il y a un comité, un jury, un peer review, whatever. Ce que ça prend pour donner. Et au lieu que ça soit distribué comme ça dans le marché, on prend les 12 millions de l'Université Laval, on en prend 0.1%, puis on lance les presses de l'Université Laval. Ah non, c'est vrai, ça existe déjà. Excusez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est une institution ou un groupe d'institutions qui prend le coût de l'édition, qui confère la valeur symbolique, qui confère l'autorité, qui confère toutes ces belles choses-là. On fait des beaux EPUB, gratuits en ligne. On peut vendre du papier, pour les gens qui ont besoin de livres comme moi bientôt, là, pour lire. Mais tu peux augmenter la taille des caractères, ça fait le fun de l'époque. J'ai réalisé, là, quand t'es rendu à...
Comment ça tu peux plus l'augmenter?
Chérie, j'ai besoin de... C'est ça. Ça, c'est un modèle qui va changer. Puis si les éditeurs le réalisent pas que ça va être ça le jeu, là, ben, tu sais, Schumpeter, il avait dit quelque chose de très intéressant là-dessus.
Je vous laisse googler Schumpeter.
Création. Fait que c'est ça, selon moi, le endgame. C'est qu'on fasse, puis il y a des modèles un peu comme ça sur Internet, unglue.it, unglue.it, OK, des éditeurs, des gens font des levées de fonds pour libérer un livre dans Internet. Donc, de dire à l'éditeur, combien tu veux là pour acheter les droits pour que ça soit rendu libre? Le premier livre qui a été mis en ligne comme ça, c'est un livre sur les traditions orales en Afrique. Ça a coûté 15 000 $. Fait que ça confirme un peu le price point, le coût de 4 à 50 000 $, 100 000 $. C'est sûr que tu peux avoir des livres hallucinants, tu t'en vas en médecine, des pavés avec des images, haute résolution, couleur, mais tout ça, ça coûte très cher. Versus la monographie en sciences sociales humaines, où c'est beaucoup de texte. Moi, j'ai un blog, hein, générer du texte, je sais c'est quoi, là. Mais c'est ça. Donc, selon moi, ça va être ça, le droit d'auteur, il change pas là-dedans. Tout ce qui change, c'est les relations contractuelles entre les intervenants. Les rôles sociaux. C'est pour ça que je parlais d'institutions, puis de ben, peut-être pas autant d'institutions. Là, je parle moins de sociologie parce que j'en parle beaucoup, j'adore ça, mais ça prend beaucoup de temps dans une présentation, puis ça donne pas beaucoup de valeur pour l'histoire, mais j'aime ça. Je fais un petit peu. C'est pour ça qu'il va falloir repenser le rôle des institutions, les politiques, les contrats. Le droit d'auteur, il n'y a rien à changer, tout est là. Puis selon moi, je suis un pragmatique. Hein, pour créer un commun, pour créer une façon d'opérer. C'est plus facile d'utiliser le système tel qu'il est, de laisser ceux qui ont du pouvoir et de l'argent opérer selon leurs paramètres, de bâtir ce qu'on veut à côté, puis essayer de voir si, à l'intérieur du système, avec les paramètres du système, on peut pas aller chercher un niveau de pouvoir et de légitimité qui peut nous permettre de le contrecarrer à l'intérieur du système. Mais moi, je suis un pragmatique. C'est peut-être parce que j'aime peut-être les enfants. Je sais que ça prend beaucoup de ressources pour avoir un train de banlieue, sinon je peux pas vivre dans... En tout cas, c'est ça mon contexte passé. Je peux continuer de même là, jusqu'à demain matin. Peut-être ceux qui veulent partir, sentez-vous pas, je me sentirai pas lésé ou quoi que ce soit. Je suis surpris que mon iPad ait pas perdu la batterie puis il soit pas en train d'exploser ou de fondre là, sur le bureau. Là. Ça me réjouit de savoir que tu as fait avant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord? Je trouve que j'ai peut-être juste trop parlé pour que vous soyez pas d'accord. J'ai noyé vos pensées dans pas mal de jus.
Bien, merci. Donc, si vous pouvez intervenir le front.
personnellement, mais merci de t'être prêté au jeu et d'avoir fait ce tour d'horizon extrêmement précieux, cette période
mouvementée. Ben oui.